que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfant.
Bonjour, Grand Reportage nous emmène aujourd'hui sur la colline du Crac, au nord de la capitale française. C'est un terrain vague, surnommé aussi la tanière du diable. Une cinquantaine de toxicomanes y vivent en permanence, une centaine d'autres y passent chaque jour pour se procurer du crack, un puissant dérivé de la cocaïne qui se fume. Insalubre, le lieu a été évacué 17 fois depuis sa création, sans succès. La ville de Paris vient de débloquer 1 million d'euros supplémentaires pour lutter contre le trafic et ses dérives, mais elle demande aussi à l'État un véritable plan anti-crack, d'autant qu'il n'existe pas de traitement de substitution et que sans soutien, il est difficile de s'en sortir. La colline du crack à Paris, approchée pour soigner, c'est un grand reportage de Laurence Théo.
Allez.
On l'appelle la colline du crack, mais elle n'a rien de bucolique et ce que l'on appelle le caillou n'a rien à voir avec le petit pousset. C'est en fait un dérivé fumable de la cocaïne qui, à la longue, fait des ravages. Le camion de l'association Charonne s'est garé au pied de la colline à Paris, ce terrain en pente situé entre le boulevard périphérique et la bretelle d'accès à l'autoroute du Nord. À bord du véhicule, quatre éducateurs y distribuent des pipes à crack propres, des filtres ou encore des préservatifs.
Une lingette, Noé, s'il te plaît.
Youssef est maigre, il flotte dans sa chemise colorée. Et sur son visage osseux, seule la persistance du regard résiste. Il apprécie l'intervention de l'antenne mobile.
Ça permet d'avoir du matériel propre. Ça permet aussi de ne pas s'infecter quand on filme derrière d'autres gens. Ça permet aussi d'avoir un contact avec des gens qui sont soit bénévoles ou qui travaillent.
C'est important de discuter un peu avec eux ?
Ah oui, ben sinon je serais pas en train de discuter avec vous.
Un lien vital pour des personnes extrêmement précarisées. Une cinquantaine de craqueurs vit quotidiennement sur la colline, au milieu de tentes, de détritus et de fauteuils éventrés. Une centaine y passe chaque jour pour acheter et fumer. Noé Courbois, éducateur.
Il y a beaucoup de populations très différentes, des personnes précaires, des migrants qui sont effectivement aussi précaires. Et là, ce lieu de la colline, c'est un lieu très particulier parce que c'est à la fois un lieu de vie, de survie pour des personnes, un lieu de plaisir et ou de perdition, et aussi un lieu de travail, notamment parce que les dealers sont là presque 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, et parce que c'est un lieu qui, au sein duquel se tiennent tout un tas d'échanges. Alors c'est pas forcément contre de l'argent, mais ça peut être de l'échange de services, de l'échange de faveurs, de la prostitution, de l'échange de différents matériels. Il y a ces codes, il y a certainement des lois et une organisation entre les personnes qui se font.
Pour le jeune homme, il ne faut pas réduire les toxicomanes à des êtres sans discernement, livrés à des pulsions animales. Même si certains sont capables de tout pour se procurer un produit extrêmement addictif, la galette de crack à 15 euros.
Les personnes sont marquées par leurs conditions de vie, sont marquées par la difficulté de leurs conditions de vie, la précarité de leurs conditions de vie. Ils sont aussi marqués par le produit. On ne peut pas oublier l'effet du produit, ça c'est sûr. C'est un effet physique, c'est un effet sur la façon de s'alimenter, c'est un effet sur la façon de dormir. Ça marque un corps, c'est indéniable. Par contre, au-delà de ça, les personnes qui sont ici, quelles que soient leurs difficultés, quelle que soit leur consommation, ne peuvent pas du tout se limiter à ça. Ces personnes ont eu une vie avant le crack, elles ont une vie pendant le crack, elles ont une vie à côté avec, pour certaines, des passions, un passé, des centres d'intérêt.
Youssef est tombé dans le crack il y a 8 ans, quand sa femme l'a quitté.
Je blague pas.
D'accord.
Je blague pas.
J'avais des amis, ils m'ont dit, viens pour oublier, viens, on va sortir en soirée. On est parti dans une boîte à Oberkampf et j'ai commencé à goûter mon premier rail de coke. Et après de la coke, j'ai vu les gens qui basaient ça, qui faisaient des cailloux parce qu'avant ils la faisaient eux-mêmes. Et puis petit à petit, quand vous avez un chagrin d'amour et tout, c'est tellement bon, ça a remplacé ma femme. Pour moi, j'ai trouvé une femme de substitution. Et du coup, voilà. L'effet du crack, ça vous permet d'oublier tous vos soucis. Voilà pourquoi les gens, ils sont tous là, ils sont heureux, ils volent pour ça et tout.
Voler pour acheter du crack, Youssef a ramassé un portefeuille sur la colline. À l'intérieur, une carte bleue et des papiers d'identité.
J'ai trouvé tout ça par terre et je vais le rendre à la famille, à la dame. Regardez, vous voyez, regardez, il y a tout.
Donc ça, ça a été volé.
Ils sont permis de conduire, regardez, il y a ses enfants là, les pauvres, elle est là. Elle s'appelle Goulet, Barnier, Marie-Guerre, voilà, dans le 15e. Et ça tombe bien, comme moi j'ai mon courrier dans le 15e, Bah, j'allais lui déposer ça, la boîte.
Bonjour,
ça.
Bonjour, vous allez bien? Pas bien, mais on fait avec.
Une femme aux jambes squelettiques s'approche pour demander une pipe à crack et des lingettes. Elle ne parvient pas à décrocher.
Ça fait longtemps. C'est pas possible d'arrêter. Parce que tout comme ça pour fumer. Pas possible. Moi, je veux arrêter. Pas possible.
Le crack, qui se présente sous la forme d'un caillou, ressemble à un petit morceau de parmesan. Grégory Faux, docteur en pharmacie à l'unité d'addictologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Alors le crack, c'est une des appellations de la forme fumable de la cocaïne. Donc la cocaïne peut se présenter sous deux formes, la forme poudre qui est plus majoritairement sniffée, donc elle est présentée sous forme de sel, qui est soluble dans l'eau donc, et on peut la transformer en une forme non soluble dans l'eau, qui est la forme base, qui va avoir l'avantage pour les personnes qui l'utilisent d'être fumable. C'est la voie d'arrivée la plus rapide au cerveau, ce qui induit un effet quasi immédiat, mais qui induit aussi des méfaits, notamment un potentiel addictogène plus fort. Donc on devient plus vite accro, plus vite dépendant à la cocaïne quand on la fume que quand on la sniffe.
Si l'addiction immédiate au crack est une légende, après plusieurs prises, elle est psychique et s'installe sévèrement. Grand et maigre, Jeff n'a plus les dents du haut, mais il offre un large sourire comme s'il les avait. Il revient sur la dépendance.
Au départ, je ne fumais pas tout le temps. Je fumais une fois par semaine et après, j'ai commencé à fumer une taf tous les jours. Mais le crack a tellement caché, de mélanger tous les trucs, qui fait que tu deviens dépendant. C'est une addiction vraiment...
Bon, ça va sinon, Jeff?
Ouais, ça va.
Quand est-ce que tu viens nous voir?
En s'éloignant un peu de la colline, on rencontre Roxane. Elle préfère fumer seule dans son coin. Assise auprès d'un arbre, elle a ce geste commun à tous les fumeurs de crack. Elle passe le briquet sur le caillou pour le souder au filtre, puis l'embrase tout entier en tirant d'amples bouffées.
Ça monte directement, ça brûle les neurones direct en fait. C'est ça l'impression que j'ai. Parce que quand on fume, comme je vous dis, ça fait des étoiles dans la tête et dans les yeux. Donc on sent tout de suite que ça attaque le cerveau, quoi. Ça devient obsédant, c'est vraiment, on est obsédé, on a envie de fumer. Moi j'ai vu des mères de famille préférer abandonner leurs enfants parce que t'arrives pas à gérer tes gosses. Ah bah mes gosses qu'ils aillent en foyer, et puis comme ça au moins je pourrais consommer.
Les effets du crack sont dévastateurs pour le cœur, les poumons et bien sûr le cerveau. Il arrive que les crackers piquent de la tête sans cesse. Les addictologues appellent ça le syndrome de la poule. Grégory Pfau.
C'est une image pour représenter l'idée obsessionnelle de la quête du produit. C'est-à-dire que très vite, les personnes qui sont en descente vont être habitées par l'obsession de retrouver du produit, d'en chercher. Et donc chaque petit caillou par terre qui pourrait ressembler à un bout de crack, très vite donne l'illusion qu'on a trouvé un bout de crack et ça réveille l'envie et le craving, hein, l'envie irrépressible de consommer le produit.
Un morceau de sopalin et un kit pour monsieur, votre prénom, monsieur.
De nombreuses structures d'aide aux toxicomanes ont fermé, notamment la boutique 18, située aux abords de la colline dans le nord de Paris. D'où l'importance pour les éducateurs de se déplacer pour atteindre cette population qui vit dans une sorte de squat à ciel ouvert. Ses cheveux poivre et sel contredisent son jeune âge. Thomas Bornstein est éducateur. Il explique la mission de l'antenne mobile.
Alors nous, on fait ce qu'on appelle de l'aller vers. Donc on va à la rencontre des gens qui ne se déplacent pas en structure. Ça nous permet en fait, de faire différentes actions, comme là, ce qu'on fait, la distribution de matériel de consommation à moindre risque, et aussi du lien.
Je vois qu'on a une petite caisse, donc juste à titre d'exemple, qu'est-ce que vous proposez? La chouette, c'est comme un petit couteau.
Ouais, ça c'est une petite lame. Voilà, quand ils ont une galette et qu'ils veulent la couper, ils peuvent utiliser ça. On a des embouts qui permettent de fumer avec un kit à plusieurs pour éviter de se transmettre
des filtres.
Des maladies, des filtres, voilà. Ça c'est la petite grille qui permet de poser son caillou pour pouvoir fumer. En fait, voilà, on
distribue. Vous proposez des préservatifs aussi?
On propose, ouais, on fait de la réduction des risques sexualité aussi. Donc on propose évidemment que ça soit fait de la façon la plus sécure possible.
T'as besoin de quoi?
Tu veux des neufs?
Ouais.
Tu veux ça?
Cette sexualité peut être tarifée. Elle permettra d'acheter une galette à un modou. Les modous sont des dealers de crack originaires d'Afrique de l'Ouest. Ce sont eux qui sévissent sur la colline. Frédéric Roussin de l'association Charonne.
La sexualité peut aussi être un moyen d'échange, un moyen de troc, un moyen d'accéder aux produits. Voilà, donc que ce soit par relation tarifée ou simplement parce que la personne va se mettre en couple avec un modou, avec un revendeur et peut avoir accès aux produits.
Les actions dans le domaine de la prévention sont d'autant plus importantes qu'il n'existe pas de médicament de substitution au crack. Grégory Pfau.
L'héroïne, la morphine, les dérivés, on a la méthadone, la buprenorphine. Pour la cocaïne, on n'a pas ces équivalents. Donc il y a eu quelques essais sur quelques thérapeutiques qui sont révélés pas vraiment fructueux. Donc on cherche, mais sans résultat assez satisfaisant aujourd'hui pour les patients. Ce qu'on préconise aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé préconise un accompagnement global avec une dimension médicale. Donc, un accompagnement psychique. Et la troisième dimension, qui est une dimension importante, c'est la dimension sociale aussi, notamment avec le crack.
Ouais, déjà passé. Qu'est-ce qu'il te faut ?
Quoi ? C'est au tour d'une jeune fille aux cheveux filasses et aux dents jaunies de tendre la main. Elle ne va pas bien, Thomas Bornstein l'a repérée.
C'est une jeune fille qu'on connaît à peine et qui apparemment pour l'instant est bien ancrée dans le produit, qui n'arrive pas du tout à partir. Donc on a fait connaissance à chaque fois, voilà, on se dit bonjour, on propose ce qu'on a à offrir. On force absolument pas, voilà, on dit voilà, tu sais, on a un espace pour les femmes ici ou un autre ailleurs. Et puis là, comme ça fait plusieurs fois que je la vois et que bon bah voilà, j'ai trouvé qu'elle avait une petite mine, je me suis pas gêné pour lui dire simplement, parce que on les confronte aussi un peu à la réalité de ce qu'ils sont en train de devenir. Enfin, en fait, l'équipe lui a proposé de passer la chercher lundi, parce qu'on sait qu'il y a une vraie difficulté physique à partir du lieu. Donc, quand on peut, avec un véhicule, venir et leur dire, voilà, on viendra à telle heure, est-ce que tu viendras ? De temps en temps, c'est plus facile. Donc, on va essayer de la faire venir voilà, dans notre espace femme, qui se trouve à République. Où, du coup, elle va pouvoir se doucher, chose que j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait depuis un petit moment.
Difficile d'évaluer précisément le nombre d'usagers de crack. En Île-de-France, il serait environ 15 000. L'espace femme de l'association Charonne est un lieu chaleureux. Les murs peints en rouge et orangé apportent de la gaieté. Il est ouvert aux consommatrices de crack et aux femmes précaires. En ce jour d'automne frisquet, quelques femmes sont assises sur un canapé, certaines prennent un café et apprécient le calme du centre. Elles peuvent prendre une douche ou encore faire une lessive. Des lits de camp permettent à ces femmes de se reposer. Les nuits sans sommeil, le manque de nourriture, les hallucinations épuisent et usent les corps. Bénédicte Perrin est coordinatrice.
Les femmes dans ce milieu particulier qui est la consommation de crack cumulent beaucoup de vulnérabilités. Elles sont face à beaucoup de violences. Beaucoup sont en situation de prostitution puisque c'est un moyen d'avoir de l'argent assez rapidement. Donc elles ont beaucoup de pression masculine puisqu'elles détiennent de l'argent. Donc beaucoup de violence et c'est vrai que tout ce qui peut être féminin peut être gommé et abîmé par la vie qu'a une consommatrice de crack particulièrement.
L'espace femme n'est pas proprement dit un lieu de soins. Mais il y a tout de même un infirmier, un médecin 2 jours par semaine et entre autres une assistante sociale pour les démarches administratives. Assise dans un fauteuil, une jeune femme moulée dans une robe en laine a les deux mains posées sur un ventre rond. Bénédicte Perrin de l'Espace Femmes.
Le problème chez les femmes qui consomment des drogues, c'est que le plus souvent elles sont en aménorrhée, donc elles n'ont pas l'oreille, mais ça n'empêche pas l'ovulation, bien évidemment. Et donc parfois elles tombent enceintes, elles ne s'en aperçoivent pas tout de suite, et c'est des grossesses qui sont détectées très tardivement, et donc avec une prise en charge beaucoup plus compliquée, bien évidemment. Quand il y a une prise de produit, il faut pouvoir s'adapter, en mettre en place des choses, hébergement, etc., des choses en relais.
Avec en plus la possibilité d'IVG compromise. Hein.
Voilà, c'est ça, bien évidemment, puisque le choix ne peut peut-être pas se faire, puisque la détection de la grossesse peut se faire très tardivement, effectivement.
Elles ont une image d'elles dégradée et souvent le fait de consommer des produits provoque des dégâts aussi assez importants.
Grande et mince, les mains manucurées, Sylvie Marini se présente dans une tenue soignée. Elle est socio-esthéticienne, sa mission, rendre belles en l'occurrence des femmes usagères de crack.
On m'a déjà demandé, redonne-moi forme humaine. Voilà, ça va vraiment jusque-là. Et je pense que c'est vraiment un travail de restauration qui est extrêmement important. Et c'est aussi un temps de repos, de répit dans ce parcours, hein, où enfin on peut prendre soin d'elles. Elles peuvent prendre soin d'elles, mais via aussi, moi, les soins que je propose, ici. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la réappropriation de son corps, aussi.
Eliane, c'est important d'être jolie, de se sentir jolie?
Oui, c'est très important, parce que ça arrive pas. On peut profiter quand il y a quelqu'un qui veut t'aider. Là, tu profites.
Qu'est-ce que vous apporte Sylvie?
Sylvie apporte l'amour pour faire très jolie les vendredis.
17 évacuations ont eu lieu sur la colline du Crac depuis sa création, sans enrayer le trafic ni la consommation. Les craqueurs sont toujours revenus. Anne Swirist est chargée de la santé à la mairie de Paris. Selon elle, les opérations de police sont vaines tant que les usagers ne sont pas pris en charge sur le plan psychologique et sanitaire. Elle parle d'un drame humain.
C'est vraiment un endroit terrible, quoi. Donc, quand les gens y vont, c'est que, en fait, ils n'ont plus d'autre solution de vie. Et la question, c'est comment on reconstitue une envie de vivre autre chose auprès de ces personnes avant de se dire comment les aider à sortir de la drogue. Et c'est en général parce que vous parlez avec eux et qu'ils commencent à avoir envie d'avoir un toit, de se soigner pour avoir moins mal, pour faire quelque chose sur leurs dents, hein. Souvent vous avez peut-être remarqué, mais ils ont pratiquement plus de dents, des dents complètement noires, donc ça veut dire beaucoup de souffrance. C'est d'offrir des perspectives d'amélioration de leur existence. Et c'est par là, souvent, qu'on arrive.
Elle fait aussi un autre constat.
La drogue, finalement, elle finit par seulement camoufler des problèmes assez intenses. Vous savez, quand ils sont toute la nuit à la colline, en général, ils reprennent de la drogue uniquement pour oublier qu'ils sont à la colline. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux. Donc il faut arrêter ce phénomène-là. C'est pour ça qu'on sait que dès qu'ils commencent à être pris en charge, eh bien on a, quand je vous disais qu'ils prennent 2/3 de drogue de moins, c'est le cas, immédiatement. Parce que simplement ils dorment, parce qu'il y a d'autres perspectives, parce qu'il y a une perspective de petit déjeuner, parce qu'il y a une perspective, on va pouvoir regarder la télévision, hein, peut-être appeler quelqu'un de la famille. Enfin, rien que cette situation-là, elle est déjà dissuasive en partie de cette question-là. Donc on voit bien que c'est pas en leur interdisant, en les enfermant. Moi, j'ai entendu des propositions moyenâgeuses de ce genre. Il faut les prendre, les enfermer, les désintoxiquer, et après, tout ira mieux. Non, tout n'ira pas mieux. Si ça ne leur appartient pas, si ce n'est pas une démarche de vie, ça ne marchera pas.
Merci.
Retour à la colline pour la dernière image. Sous le chapeau de paille, les paupières d'Ibrahim frémissent. Le vieil homme refuse de parler car il n'en peut plus de sa vie de forçat du caillou. Alors il s'en va à petits pas et c'est à nous qu'il souhaite bon courage.
Bon courage.
Un grand merci à l'association Charonne pour son accueil. Un merci tout particulier aux usagers de crack pour leur témoignage. La colline du crack à Paris, approchée pour soigner. Un reportage de Laurence Théo, réalisé par Pierre Chaffanjon. Put you down.